Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Hashtag InstaLife, hashtag beau gosse, hashtag love my face.
Salut Alex.
Ah, salut Charline, je poste un max sur les réseaux, sur Insta.
Ah, t'as raison, c'est pas mal du tout Instagram, on voit des choses intéressantes.
Mais qu'est-ce que tu penses de cette photo de moi dans le bureau? Hashtag Friday morning, hashtag par Jupiter way of life.
Attends, tu pourrais poster une photo avec le livre de l'invité, François Saltiel, tout simplement, ça fera un bon hashtag vendredi lecture sur Twitter, tu
vois. Qui ça?
François Saltiel, c'est un jeune journaliste, tu l'as sans doute vu dans 28 minutes sur Arte.
Hashtag je regarde Arte.
Et il analyse la géopolitique par le prisme des réseaux sociaux.
Super idée, mais je poste son livre directement.
Ah oui, et puis la mise en abîme, tu vois.
Hashtag mise en abîme. Hein, pourquoi mise en abîme? Hashtag, mais pourquoi?
C'est le sujet central du livre, c'est la puissance des hashtags et la face positive des réseaux. Tu
génial, parce que justement, moi je cherche à lancer un hashtag un peu vendeur pour l'émission.
Non mais Alex, attends, les hashtags c'est plutôt pour une cause. Hashtag MeToo, hashtag Bring Back Our Girls, Black Lives Matter.
J'ai plein d'idées, moi, pour des causes. Hashtag Cougars MeToo, hashtag Je suis Michelto, hashtag My Life Matters.
Super, Alex, hashtag on est sauvés, là.
Sinon, j'ai pensé à hashtag Bring Back Our Breaths. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va liker de ouf.
Non, Alex, hashtag jamais de la vie, là.
Bon, alors je mets quoi, alors? Hashtag Humour et Actu, hashtag Info et Blagonnette, hashtag Je mets la réponse à la question.
Oh là là, Alex, non, mais tu sais quoi? Attends, j'ai une idée géniale, accroche-toi. Hashtag Par Jupiter.
Oh, c'est brillant.
Alors maintenant, je propose hashtag Silence jusqu'à 17h.
Okay, je le fais si tu le tweets. Le hashtag, c'est pas dans la vraie vie, c'est tout à l'heure. Ok, j'ai reçu. Hashtag silence que 18h. Et hashtag délivrez-moi de mon collègue de travail. Comprends pas.
Bonjour la France Inter. Nous sommes le vendredi 30 novembre 2018. Et voici déjà 41 jours que l'Aquarius s'est vu arracher son pavillon et qu'il est retenu à quai. Pendant que SOS Méditerranée est menacé de couler, le monde, lui, continue d'avancer. Google connaît un dilemme cornélien, faire tourner son moteur en Chine, tout en étant censuré ou refuser de s'y implanter à cause de la censure, comme le réclament publiquement 500 cadres de l'entreprise.
En tout cas, moi, si je tape cocu sur Google, je suis sûr que je tombe sur toi, tu vois.
À Milan, un restaurant propose de vous offrir le repas si vous avez beaucoup de followers sur Instagram. Et moyennant de partager la photo de ce que vous aurez mangé, bien sûr. Reste à trouver comment les crèves la faim pourraient choper des followers.
Mes chers amis de Facebook, mes chers followers de Twitter.
Les crèves la faim, on a dit. Bon. La fête, c'est un thème universel avec une variété illimitée de formes. Et l'un des traits communs à toutes ces fêtes autour de la planète, c'est qu'une teuf réussie se doit d'être, paraît-il, une sorte de mariage du paradis et de l'enfer.
Tu vois, il y a toujours un moment charnière dans les soirées où je commence sérieusement à me faire chier. Et là, c'est maintenant, par exemple.
Lui, il n'a pas le temps de faire la fête, il est sur scène. C'est Alex Vizorek.
C'est pas faux, bonjour Charline Manounaker. Hashtag une toute belle équipe aujourd'hui. D'ailleurs, on a deux étrangères et un extraterrestre. À 17h20, celle qui viendra dorénavant de Ouaga en Ouigo, car elle ne supporte plus les taxis parisiens. C'est Rukyata Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
De la parole.
De la parole, ça c'est très bien. Mise en abîme, hashtag. À 17h30, celle qui est tellement impliquée dans sa chronique qu'elle vient tous les vendredis de Suisse en corbillard. C'est vous, Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour. À Paris, ce soir, près de 2000 personnes ont payé cher pour voir Maria Callas sur scène, en hologramme. Pourquoi accepter de se ruiner pour voir une diva morte?
Parce que je suis Madame Callas, tout simplement.
Ah, ça se tient. Et à 17h40, celui qui vient donc d'une autre planète où vraisemblablement certaines drogues ne sont pas interdites. C'est Thomas VDB, bonjour.
Alors, bonjour à tous. Déjà, j'articule très bien.
Ça,
tout va très bien. Comme vous savez, j'ai la télévision chez moi. Et j'aime beaucoup parler de ce que je regarde à la télévision. Et donc, la semaine dernière, j'ai parlé de La France a un incroyable talent. Et cette semaine, j'ai regardé Cache Investigation. Et je pense que l'incroyable talent, il s'agit de Élise Lucet. J'ai regardé Cache Investigation et j'ai eu très, très peur.
Très, très bien. Et à 17h55, celui qui vient à dos de guitare se mettre à dos l'actualité en nous dorlotant les oreilles, c'est Frédéric Fromet qui viendra chanter sa chanson.
Et voici enfin celui qui va générer du like dans l'open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Hashtag François Saltiel.
Mais c'est lui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bonsoir François Saltiel.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Mais avec plaisir, les téléspectateurs de 28 minutes vous connaissent bien, car vous arrivez à la fin de l'émission avec le camarade Xavier Mauduit, dans l'émission d'Elisabeth Quint, tous les jours à 20h05 sur Arte. Signalons d'ailleurs que vous faites d'excellentes audiences et que vous dépassez parfois Cyril Hanouna.
Et c'est une grande fierté. On en est très contents.
Ça devient plus très difficile, j'ai l'impression de dépasser Cyril Hanouna. Tout le monde dépasse Cyril Hanouna.
Il reste de l'espoir, François Saltiel. Et vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Le vendeur de thé qui changera le monde » avec un hashtag et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies, paru chez Flammarion. Et en effet, vous regardez aussi, c'est vrai, la géopolitique et les histoires de réseaux, etc. Vous êtes très féru de tout ça, c'est ce que vous racontez notamment aussi sur Arte. Alex Vizorek,
oui.
Quid du hashtag?
Hashtag, j'ai géré le livre.
Avec autant de J que ça.
Hashtag bégaiement. Non, le hashtag qui est rentré dans nos vies 2007, créé par un ingénieur américain de chez Google, exact, dont on dira bien du mal dans le premier sujet, mais quand même, c'était pour donc au départ classer les thématiques sur Twitter. Et vous en avez tiré 10 histoires qui ont marqué notre histoire depuis donc 10 ans. C'est-à-dire que le hashtag a changé le monde. Et vous, ce que vous avez envie de dire, c'est que aussi les réseaux sociaux, il y a un côté positif. Il n'y a pas que la fachosphère et il n'y a pas que des gens pour critiquer des autres. Et vous ouvrez, et c'est le titre du livre, par un hashtag peut-être le moins connu des 10.
C'est vrai.
Non, mais c'est Chaiwala, hashtag Chaiwala. Et ça permet donc cette mise en perspective, comme le disait Charline, de l'histoire du monde, parce que vous nous racontez, moi j'ai découvert l'histoire du Cachemire, que je ne connaissais pas du tout par ce hashtag. Pouvez-vous nous l'expliquer brièvement?
Oui, le hashtag Chaiwala, c'est du pakistanais. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez le pakistanais ici, mais
bien
ça veut
sûr.
Dire...
Rudiments,
bien
vraiment.
Sûr, vous savez tous ce que ça veut dire, quelque vendeur rudiments. De thé, voilà. Évidemment. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un petit hashtag. Effectivement, c'est dans ces 10 histoires, c'est celle qui est la moins connue, peut-être la plus futile, mais qui raconte quand même quelque chose d'important sur notre société. Je vous fais l'histoire rapidement. C'est une photographe de mariage qui se balade comme ça sur le marché d'Islamabad. Elle n'est pas vraiment au travail, hein, donc elle est tranquille, elle se balade sur le marché, les effluves, les couleurs, et puis elle voit au loin un vendeur de thé, mais magnifique, mais vraiment quelqu'un de somptueux, 18 ans, les yeux verts. Donc elle le capture comme ça avec son appareil photo, hop, elle saisit l'image, et puis ensuite elle rentre chez elle, elle publie l'image sur Instagram avec le hashtag Chaiwala, vendeur de thé, et puis un petit jeu de mots qui dit hot tea, comme si c'était vraiment quelqu'un de très très joli. Et d'un coup, eh bien, en quelques heures, cet homme, Ashraf, va faire le tour du net et va devenir une véritable personnalité, tout le monde le trouve magnifique, très beau. Jusque là, c'est pas très intéressant.
Gros coup de bol, on a envie de dire, pour le gars quand même. Facile de devenir une personnalité.
Sauf qu'au même moment, entre l'Inde et le Pakistan, il y avait des tensions. Vous savez bien que les deux pays sont en conflit très régulièrement autour de la région du Cachemire. Mais cette photo de cet Indien très très beau va traverser la frontière et va aller jusqu'en Inde. Et les Indiennes et les Indiens vont dire « Mais attendez, arrêtons d'envoyer nos bombes, la bombe atomique, c'est lui ». Et d'un coup, il va se retrouver à son insu, sachant qu'il sait ni lire ni écrire, hein, ambassadeur de la paix. C'est une sorte de petite trêve du thé. Voilà, le Gandhi des temps modernes, le Gandhi 3.0. Et la télévision pakistanaise vient le voir en disant, mais on parle de vous partout. Alors lui, il le découvre, hein, il sait ni lire ni écrire. Et il se rend compte qu'il est devenu une star et il va dire, bah voilà, finalement, mon plus grand rêve, ça serait de tendre la main à mon frère indien. Et l'espace d'un instant, on a pu ressentir un apaisement grâce à cette photo, grâce à cette notoriété accélérée que les réseaux sociaux ont pu engendrer. Donc voilà, c'est une petite histoire un peu conte de fées.
Oui, des hashtags que vous traitez émanent de femmes et dont 5 ou 6 sont des vrais combats purement féministes. Donc ça aussi, ça a joué beaucoup sur la condition de la femme, ça a beaucoup aidé.
Exactement, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, encore une fois, si on s'intéresse que sur la partie positive des réseaux sociaux, ça peut être la voix des sans-voix. Alors non pas que les femmes n'ont pas de voix, mais on le sait très bien que dans l'espace physique, elles sont discriminées, elles sont payées moins bien que les hommes, je ne sais pas si c'est le cas ici. Bon bref, en tout cas en France, elles le sont, au moins 24% si on prend tous les secteurs confondus. On les entend moins, elles sont moins invitées sur les plateaux de télévision. Donc forcément, quand ces femmes-là ont eu un compte Twitter ou sont arrivées sur les réseaux sociaux qui étaient un terrain vierge, elles ont pu exprimer, elles ont pu faire part de leurs ressentis, des discriminations et donc fédérer autour d'elles. On l'a vu aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de causes, par exemple de gens discriminés comme la communauté homosexuelle, comme la communauté afro-américaine si on parle des États-Unis. Donc c'est vraiment
les
aussi...
Les Belges, hashtag seul.
Ah, hashtag les Belges, ouais, ça c'est vrai qu'ils s'en prennent souvent plein la tête. Mais en tout cas, ça sert à ça les réseaux sociaux, ça peut être aussi une caisse de résonance pour ceux qui sont discriminés dans l'espace physique.
C'est autant d'opportunités de s'exprimer que de se faire pourrir aussi quand même les réseaux sociaux.
Ça reste qu'un outil, c'est vrai, c'est vrai.
Alors je me suis dit, est-ce que si dans l'histoire ça avait existé, est-ce que par exemple avec le hashtag sans culotte mon pote, la révolution française aurait été plus rapide?
Elle aurait été plus rapide, ouais. Ah, effectivement, elle aurait peut-être duré 28 minutes, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, ça aurait été plus rapide. Ouais.
François Saltiel, on va bien sûr revenir sur les réseaux sociaux qui innervent.
Bien sûr. Bien, ouais, je mets un
le,
peu
le vendredi, il y a parfois des mots du premier groupe.
Tous les sujets traités dans cette émission, je vous sens chaud. Hein. VDB, il est à fond réseau aussi.
À fond dans les réseaux.
Ah ouais, Rouquetta, Rouquetta.
À fond la caisse.
J'adore les hashtags. J'adore tous les hashtags.
François Saltiel. Oui, ces histoires-là, vous pouvez les retrouver dans Le Vendeur de Thé qui changera le monde avec un hashtag et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies. C'est paru chez Flammarion. C'est François Saltiel qui est avec nous. Oh, dites donc, je suis quasiment à bout de souffle pour écouter Nougaro.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur était ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turtève, Boubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde-flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu files, me dit-elle, descends pas, sauve-toi, parlez-toi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, encore les flics, vite le fric, et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1. Vasista s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise, c'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. Sans toute fente d'une cour, je descendis jusqu'en bas et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti et tout de suite je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie, toute la vie.
Respire Claude, Claude Nougaro, t'es sur France Inter, par Jupiter, avec notre invité François Saltiel, que vous pouvez voir le soir chez Elisabeth Quint dans 28 minutes, avec Xavier Mauduit, et qui publie un livre sur les hashtags, qui vous explique les histoires de hashtags qui ont un peu changé le monde, et c'est la, un peu la géopolitique à travers ces hashtags. C'est paru chez Flammarion, Le Vendeur de Thé, avec un long titre, si je dis Le Vendeur de Thé, vous allez trouver, pour entourer François Saltiel.
Eh bien, on a Rukyata Ouedraogo, on a Christine Gonzalez, qui nous parlera de Maria Callas, on a Thomas VDB qui a regardé la télé.
J'ai regardé la télé.
Et ça, c'est déjà vendeur.
C'est bien, c'est un fou de télé.
Et Frédéric Fromet qui viendra nous chanter l'actu.
Allez, on va liker l'info.
Allons-y.
Je ne supportais pas que l'Elysée reste allumée la nuit.
Le journal de presque 17h17.
Je faisais moi-même le tour pour éteindre la nuit.
Et on commence par les titres.
Alors qu'il est en déplacement en Argentine pour le sommet du G20, Emmanuel Macron a été accueilli par un homme vêtu d'un gilet jaune.
Et oui, de toute façon, en ce moment, Macron, s'il se barrait au pôle Nord, il tomberait quand même sur un ours polaire avec un gilet jaune.
Michel Drucker a déclaré au sujet des gilets jaunes, on ne peut pas rester insensible à cette détresse.
Oui, on le comprend, Michel. Ça lui rappelle évidemment ses débuts, ses premiers interviews de Marat, de Camille Desmoulins et de Robespierre.
Il y aura aussi des brèves.
Oui, des brèves, parce qu'on ne peut pas rester insensible aux brèves.
Hashtag la douleur.
Bring back our breaths. Et on parle beaucoup de ça, des gilets jaunes.
Oui, oui, oui. Pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. C'est vrai, c'est lui. À chaque fois, j'oublie, mais c'est lui. Le mouvement des gilets jaunes n'est pas un phénomène de masse.
Et oui, et pour les Français, Christophe Castaner est clairement un phénomène à la masse.
La facture est tombée. La manifestation la semaine dernière sur les Champs-Élysées a coûté plus d'un million d'euros de dégâts.
Et ouais, c'est un peu con, les gars, parce qu'avec un million d'euros, on peut en faire des pleins. Donc faites attention quand même.
On retrouve également les gilets jaunes là où on ne les attendait pas.
Et oui, avec ce titre, je ne sais pas si vous avez lu ça, les gilets jaunes désormais populaires sur Pornhub. Vous connaissez, Charline ?
Non.
Eh ben moi non plus, je ne connaissais pas du tout. Mais bon, hein, ne reculant devant aucun sacrifice pour cette émission, je suis allé sur ce fameux site pornographique. Alors, il y a une actrice qui était bien inspirée parce qu'elle a posé un teaser d'une vidéo où elle arrête nue sous son gilet jaune un automobiliste.
Je suis désolée, monsieur, mais vous n'avez pas le droit de passer.
Non, mais j'ai juste besoin d'aller travailler.
Ah, mais non.
Mais vous bloquez toute la circulation aujourd'hui?
Oui, je bloque la circulation. Gilets jaunes, vous n'avez pas entendu parler du mouvement?
Et lui, il n'avait pas entendu parler du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est installé dans la voiture pour un peu lui expliquer voilà, tout ce qu'il en était du mouvement, tout ça. Mais comme elle était très peu habillée sous le gilet jaune, bah, il y a un moment où...
Je suis un peu froid.
Et voilà.
Je fais comme et voilà. Mes collègues tournent la bière et le café.
Voilà, 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 ça, voilà, parce que c'est quand même la première fois de l'histoire qu'on passe un son de Pornhub sur France Inter.
Sans transition voilà, possible, voilà. Aux États-Unis, Starbucks va empêcher ses clients de regarder du porno encore via son Wi-Fi.
Oui, mais ceux qui veulent continuer à voir des gens se faire baiser n'ont qu'à regarder les autres commander un latte à 6 euros au comptoir.
C'est vrai, États-Unis toujours, oui. À cause des overdoses, l'espérance de vie a baissé en 2017.
Oui, oui, en même temps, si mon président c'était Donald Trump, je crois que moi aussi je me droguerais beaucoup.
Justice, oui. Carlos Ghosn restera 10 jours de plus au Japon.
Logé, nourri, blanchi à l'œil. Carlos Ghosn, dès qu'il y a moyen de gratter un truc, il est là quand même.
Hein. People, toujours. Oui. Beyoncé a écrit une émouvante lettre à Nelson Mandela.
Oui, alors c'est très gentil hein, de sa part, mais Christine, dites-lui à Beyoncé qu'on a plus de chances de retrouver Mandela dans vos chroniques plutôt que de lui répondre.
Allez, les brèves.
Oui, des traces de médicaments ont été retrouvées dans le sang d'Alexia Daval. Et vu comme elle est décédée, c'était apparemment pas des anti-inflammatoires.
La dernière.
Et la dernière, oui, elle est un peu rêche, celle-là. Alès. Une femme munie d'un sac à dos menace de se faire exploser dans une banque. Voilà, elle supporte très mal la retraite, elle se radicalise, Dora l'exploratrice.
Alors, comme oui, toute la semaine, on ne finit pas le journal sans la question COP24 posée à tous les invités de la station. Et vous, vous faites quoi pour la planète?
Pour la planète.
Et aujourd'hui, on a appris que le réalisateur Guillaume Niclou...
Je ne suis plus fumeur, mais quand je fumais, je ne laissais jamais un mégot par terre.
Il ne laisse jamais un mégot par terre, génial.
Youpi, youpi.
La planète est sauvée.
Sauvée.
Eh, j'ai une bonne nouvelle, c'est le dernier jour où on pose cette question.
Ah, c'est coup de bol, coup de bol.
Bien, donc, vous êtes tombé le jour où on la pose encore.
Ah,
et
oui,
vous,
c'est ça.
Vous faites quoi pour la planète, François Saltier?
Hashtag la planète.
Sans doute pas assez de choses pour la planète. Non, il y a quelque chose que je fais, alors vous allez dire, oh, c'est super facile à faire, c'est effacer mes mails. Ah oui, effacer les mails, mais en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous gardez vos mails depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais tous ces mails, ils sont stockés sur des serveurs, des énormes serveurs qui consomment énormément d'énergie, donc c'est une sorte de pollution de data, de données. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, là, tout de suite, maintenant, c'est d'aller effacer tous vos mails qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Pas ceux de votre ordinateur, ceux de vos...
De votre collègue, bien
Gmail,
sûr.
Autre mail. Non, non, non. C'est-à-dire qu'à un moment... Parce que moi, ce qui m'angoisse avec ça, vous avez absolument raison sur le fond, c'est qu'on n'aura plus de lettres. Donc, les belles correspondances des gens qui s'écrivaient.
Ah bah, vous archivez les lettres d'amour et d'exception.
Ah oui,
mais vous
faire le tri.
Voilà,
c'est super. François Saltiel, alors là, vous avez mis sa race à tous les autres invités de toute la semaine.
Ah,
vraiment. Avant d'écouter Rukyata Ouedraogo, voici un premier sujet. Les salariés de Google sont en plein dilemme. Lancer un moteur de recherche en Chine, moteur qui devra appliquer les règles de censure imposées par Pékin, ou refuser d'être présent en Chine pour éviter de collaborer à l'oppression dans les pays occidentaux. Bon, chez nous, cette question s'exprime en d'autres termes.
Pourquoi t'es dans le noir ?
Chut, je suis sur le Darknet.
C'est quoi ? C'est un internet parallèle où tout est permis.
C'est genre la Seine-Saint-Denis du net ?
Ouais. Par exemple, sur Le Bon Coin, au lieu d'acheter une table en bois à Besançon, tu peux acheter du LSD à Caracas.
Un extrait de Bloqué par Gringe et Aurel San. Voilà ces employés de chez Google qui ont, ils sont 500 pour l'instant, à avoir écrit une lettre publique en disant « Nous sommes opposés aux technologies qui aident les puissants à opprimer les plus vulnérables ». Et il y a une autre partie des cadres de Google qui disent « Bon, ben, nous, on voudrait quand même lancer ce moteur de recherche appelé Dragonfly en Chine ». Il y a une géopolitique aussi de Google. gueule alors, François Saltiel? Ce sera une décision lourde de conséquences. Il y a un choix que vous allez scruter.
Oui, effectivement, là, c'est un vrai sujet parce que on le sait bien, ces GAFA doivent conquérir de plus en plus d'utilisateurs et la Chine est un énorme marché. Alors jusque-là, ils avaient quand même une position un peu de favoriser la liberté qui est à la base de l'utopie d'Internet. A priori, c'est quand même pour rendre l'information accessible à tout le monde et tout le temps. Et on le voit bien justement dans ce livre à travers ces histoires, ces facteurs de liberté quand même Internet. Mais en Chine, faut bien se plier aux règles. Et là, si Google se dit ok, pas de problème, moi je vais faire un moteur de recherche adapté où on ne pourra pas par exemple chercher des informations qui critiquent le dictateur,
si
des
vous
informations.
Tapez Tiananmen, ça explose.
Ça explose, voilà. Exactement. Ça pourrait créer aussi une jurisprudence dans plein d'autres pays. Vous avez pas remarqué que l'autoritarisme commence un petit peu à bourgeonner partout dans le monde. Et donc cette jurisprudence-là pourrait faire très très mal. Et ouais. Dernière petite chose par rapport justement à la Chine. Récemment, il y a un éditeur de jeux vidéo, Ubisoft, c'est un grand éditeur de jeux vidéo, qui jusque-là faisait des versions un peu séparées pour les marchés. Vous savez, dans les jeux vidéo, parfois, il y a des images un peu de sexe, trop de violence, etc. Donc, il y avait des versions qui étaient vraiment réservées à la Chine, où on enlevait les femmes dénudées, et pour le reste du monde, comme chez nous en Europe, on pouvait jouir d'une certaine liberté. Eh bien, dans cette dernière version de ce jeu vidéo, ils sont pliés à la censure chinoise, et c'est surtout la censure chinoise qui va finalement dominer le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule édition de ce jeu vidéo, sans les images sexy, mais qu'on aura nous aussi en Europe. Quelque part, on est nous aussi pliés à la censure chinoise. Et là, c'est aussi un moment charnière et un cas d'école par rapport à ces Chinois qui commencent à prendre une part très importante dans la gestion de notre liberté sur les réseaux.
Mais pourquoi certains pays ne le font pas, du coup? Parce qu'il y a pas mal de hashtags qui viennent de dictatures aussi. Le Women to Drive, c'est l'Arabie Saoudite.
Exact.
Et donc, ils ne pouvaient plus contrôler, du coup, les gens.
Ouais, ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, donc okay, Mohamed Ben Salman qui a donné le permis de conduire aux femmes très récemment, sauf que s'il l'a fait, bon, il y a une forme d'opportunisme politique certain, mais c'est aussi le fruit de 20 ans de mobilisation de femmes saoudiennes qui, au péril de leur vie, ont pris des risques pour qu'aujourd'hui cet État se mette à plier et à donner l'autorisation du permis de conduire, et notamment par les réseaux sociaux. Et il y a eu ce hashtag qui s'appelle Women to Drive, où c'est une saoudienne courageuse qui a pris le volant et qui a appelé toutes les autres femmes à faire de même, et aller dans les rues de Riyad, les mains sur le volant, en mettant le contact et en se disant si on est 5, on va se faire arrêter, si on est 10 aussi, si on est 300, peut-être pas. Et c'était une manière aussi de mobiliser l'opinion publique. Et c'est certain que si aujourd'hui, en 2018, les Saoudiennes ont enfin le droit de conduire, c'est grâce à ces féministes qui sont battues pendant plusieurs décennies, dont certaines sont d'ailleurs toujours incarcérées aujourd'hui, et ça, on n'en parle pas trop.
Et voilà, c'est l'une des histoires, le vendeur de thé qui changera le monde avec un hashtag. Et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies. C'est paru chez Flammarion, c'est François Saltiel.
Vous le dites bien.
Qui est en notre compagnie. Et aussi Rukyata Ouedraogo. Coucou.
Coucou. Alors, on dit chez moi que la parole est comme l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la ramasser. Autrefois, dans mon village, quand on voulait conclure une affaire, on donnait juste sa parole et cela suffisait. On se croyait sur le champ parce que la parole était sacrée. Celui qui ne respectait pas sa propre parole n'était pas digne de respect. C'était une question d'honneur. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, à qui donner sa parole? Personne n'en veut. L'autre jour, j'en parlais à mon jeune neveu Ousseini, fraîchement diplômé de la business school de Ouagadougou. Mais tanti, c'est logique, regarde. On dit que celui qu'on peut croire sur parole est un homme qui n'a plus de parole. Donc, si cet homme donne sa parole, par définition, après l'avoir donnée, il n'en a plus. Alors, Ousseini, si je te comprends bien, un homme de parole ne peut pas donner sa parole, sinon il n'est plus un homme de parole. Eh bien oui, c'est ça, tanti. Et c'est pour ça que dans le nouveau monde, il n'y a plus de place pour la parole des anciens. Ce qui marche aujourd'hui, c'est les fake news. C'est la post-vérité. Il faut être pragmatique et vivre avec son temps, tanti. Bah ouais, tu vois, moi ça me rend triste tout ça. Hein. Parce que quand il n'y a plus de parole, il n'y a plus de confiance. La preuve. Quand tard le soir je me rends compte qu'il me manque du sel ou du poivre pour épicer ma sauce, je cours voir mon épicier et il m'arrive parfois de ne pas avoir assez de monnaie sur moi. Et comme mon épicier ne prend jamais la carte bleue et veut toujours être payé en liquide pour des raisons fiscales qui m'échappent, je suis obligée de lui dire à chaque fois « Bon Abdoulaye, je te donne ma parole que demain matin, avant le chant du coq, avant le braiement de l'âne, avant le lever du soleil, tu auras ton argent en espèces sonnantes et trébuchantes. » Et à chaque fois, il me répond « Ma sœur, paye-moi d'abord ce que tu me dois et on verra après. » Mais mon frère, j'entends bien ton argument qui n'est pas dénoué d'un certain bon sens. Je n'en disconviens pas. Néanmoins, et il n'y a pas de néanmoins. Les bons comptes font les bons clients. Un point, c'est tout. Évidemment, je contre-argumente et tout cela finit en bavardage sans fin. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de marchands où la parole se dégrade en bavardage, pour ne pas dire en marchandage. La parole est humiliée, souillée, piétinée, voire profanée, Alex. Pourtant, la parole est importante, parce qu'elle est rapport, elle est en rapport avec le souffle vital. C'est pour ça que les griots, les gardiens de la parole, ont une vraie responsabilité. Chez moi, au village, le chef ne parle pas. Lui et le griot connaissent la puissance de la parole et ils en disent. Ils ne disent rien au hasard. Ils savent qu'une parole, ce n'est pas que du son porté par du souffle. Une parole, c'est d'abord une action. Une parole est comme un boomerang. Elle va à la rencontre de celui à qui elle est destinée, puis elle revient toujours à sa source sous forme d'écho. Et si tu n'es pas assez habile en lançant une parole, tu peux être assommé par tes propres mots. Les chefs le savent, c'est pour ça qu'ils laissent parler les griots. Mais ici, nos chefs présidents veulent toujours parler, comme si leurs paroles ne les engageaient pas et que nous, on ne demandait qu'à les croire. Quand Macron dit qu'il entend le problème des Français et qu'il lutte pour le réchauffement du climat entre les gilets jaunes et lui, sait-il qu'il peut être assommé par ses propres mots, hein? Ça, il le sait pas, le Macron. Voilà. A-t-il oublié son bon ami François Hollande qui a réussi à se mettre KO debout tout seul avant même le début du combat des élections présidentielles? Un jour, mon oncle m'a dit, « Ma fille, quand tu sais quelle calamité toute parole prononcée peut engendrer, tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Car comme on dit ici au village, il est moins dangereux d'avoir une crampe à la langue qu'une connerie au bord des lèvres. » Alors, ma sœur Charline, aujourd'hui je voudrais vous dire que j'ai donné ma parole, que je viendrai jouer mon spectacle. Je demande la route au théâtre de Pertuis le 4 décembre à 20h30. Pertuisiens, pertuisiennes, soyez convaincus, je tiendrai ma parole.
Merci, c'est la sagesse de Tata Rukyata qui était avec nous. Merci beaucoup Rukyata Ouedraogo. La parole de Waga. Manuel Lane, not easy to cook. Ça, Alex Misery qui sait bien ça. Ça, il le sait, ça oui.
Decided on how to cook it in a pressure cooker in a bain-marie. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
The microwave oven will do the trick. I turn the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
Love is no very sorcery true.
Orange bubbles and it looks at me. He's half open mouth, he's trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
Still hot and steaming, it approaches me. My name is Christian, put me in your belly. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
Gosh, this look very sorcery.
Par Jupiter, vous êtes sur France Inter. Qui doit la programmation musicale à Djoubaka pour ce 17h-18h comme tous les jours. Notre invité, c'est François Saltiel, que vous pouvez voir le soir, par exemple, sur 28 minutes, qui publie un livre sur les hashtags, on va en reparler, chez Flammarion. Sachez qu'il est 17h37 au Brûle-Cul. C'est un lieu dit de Sugère, près de Clermont-Ferrand.
Hashtag Brûle-Cul, évidemment.
hashtag bonjour à la discothèque et à Romain de la discothèque qui travaille avec nous pour cette émission, dont les parents sont dans le studio et qui viennent donc de Brûle-Cul. Bienvenue à vous.
Comment ils appellent les habitants de Bulcu?
Alors, on
les
va chaudasses. Leur demander. Ils sont derrière vous. Voilà, ça, ils sont derrière vous. Il y a pas de... C'est un lieu dit. C'est un lieu dit.
C'est un lieu dit. C'est un lieu dit.
En tout cas, tous les gens à Bulcu, on les a récupérés. Ils nous écoutent en ce moment et ils vont donc pouvoir aussi écouter, car il est 17h37 à Fribourg et à Lausanne, Christine Gonzalez.
Et si vous alliez voir la Calas ce soir à la salle Pleyel à Paris, c'est tout à fait possible, même si elle est morte il y a 40 ans. Son hologramme est en pleine tournée avec orchestre symphonique et ça marche très très bien. Maria Callas, bonsoir, on vous dérange pas?
Mais non.
Ça fait plusieurs semaines que votre hologramme tourne, les États-Unis, l'Amérique du Sud, puis l'Europe. Là, c'est votre dernier récital à Paris ce soir. Demain, Lyon. Comment réagit le public?
On a aimé, mais on a été un peu bouleversé, un peu choqué, disons.
Ouais, ça peut choquer. Mais bon, moi, vous savez, j'ai rien contre les retours posthumes.
Oui, sûrement, ça.
Mais peut-être que ça choque certains, parce qu'on vous a pas vraiment oublié.
On n'a pas oublié, mais on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas comme la Callas. C'est pas la façon de chanter comme le nôtre, évidemment, c'est un...
Un hologramme.
Tout à fait.
Voilà, ça doit quand même être troublant, ce vrai-faux.
Il faut persuader le public que c'est vrai, ou au moins donner l'illusion d'une vérité.
Le spectacle posthume, c'est un sacré filon pour l'industrie musicale. Jusqu'à 100 euros la place, c'est un peu abusé là.
Il ne faut pas avoir peur de dépenser.
Sur Twitter, ça réagit. Par exemple, quelqu'un a écrit, je le cite, « Accepter de payer autant pour un culte morbide, ça s'appelle se faire baiser. »
Vous savez, nous artistes, nous devons nous baiser.
Pardon?
Je dis qu'il faut que nous nous baisions très bien chaque jour.
Ah. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Maria Callas.
Quand on a beaucoup de cervelle, comme moi, que j'en ai trop, et alors je pèse trop les choses.
Ah, voilà, peser.
Tout à fait. Voilà. Comprenez-moi, cherchez au moins de me comprendre avec mon mauvais français.
Non, vous parlez très très bien français, vous êtes très douée, puis pas qu'en français. Hein. Moi, ce que, évidemment, j'admire le plus chez vous, c'est votre voix. J'adorais tellement chanter comme vous.
S'il y a d'humilité dans le travail, tout à fait possible.
Possible? Vous seriez d'accord de m'apprendre?
Oui.
Oh, bah génial!
Mais c'est à toi.
Oui.
Et comme ça, en ouvrant la bouche et en faisant un geste.
Oui.
Bonjour et que Dieu vous bénisse. Je vous aime.
C'est Mireille Mathieu. Mais Mireille Mathieu.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez bien que je suis en pleine masterclass avec la Callas.
Elle est très émouvante. Il y a des notes extraordinaires.
Oui, mais Mireille Mathieu, vous êtes vivante.
Oui, fière de l'être.
Oui, d'accord, mais dans ma chronique, il n'y a que des morts, les vivants, moi j'en veux pas.
Il n'y a pas de raison, non?
Je suis désolée, Maria Callas, pour cette irruption.
Je suis ici. Quand vous aurez besoin, venez me chercher.
Non,
c'est tout.
Non, mais restez, Mireille Mathieu, s'il vous plaît.
Jézébel, c'était toi.
Mireille Mathieu, vous étiez il y a 2 semaines chez Augustin Trapenard. C'est bon, pas besoin de revenir comme ça sur Inter.
Alors, je vais me lever.
Voilà.
Donc, je vais interpréter de mon CD et mon double vinyle.
Non.
Mes classiques.
Non.
Et à ma petite maman.
Non.
Voilà. Mia cruda sorte,
oui. Voilà, merci.
Et que sospiri.
Voilà, merci. Voilà, merci Mireille. Maria Callas,
Moi, je vous remercie vraiment.
Écoutez, madame, je voudrais tellement travailler avec vous.
Toi, tu dois continuer à faire ce que tu dois faire.
Oui, si Dieu le veut, oui.
C'est à toi de dire, ben ça c'est le destin, je vais le prendre par les cheveux.
Je ne suis pas sûre qu'elle prenne son destin par les cheveux, Mireille Mathieu, hein, si je puis me permettre. Et à propos de destin, Maria Callas, j'en ai un dans le champ, franchement.
Non. Je suis très fataliste.
D'accord. Ok. Bon, on va rester là-dessus. Bon concert ce soir en hologramme à Paris.
Je veux remercier tout ce public. Ils m'ont adoré, ils m'ont compris, généralement, ils m'ont aimé. Alors de ça aussi, je suis très reconnaissante. J'ai que de la reconnaissance pour le monde. C'est tout.
Merci, Maria Callas.
Christine Gonzalez. Bravo, c'est bluffant. Ce sont quelles
des archives.
Célina, quoi.
Célina, oui, oui, c'est trois entretiens qu'elle avait, wow. qu'elle avait oui. octroyé à
c'est étonnant.
Et Mireille, c'est de où?
C'est il y a deux semaines, sur France Inter, Boomerang.
Elle ne veut pas venir chez nous, je fais un grand appel. Mireille, alors je sais bien qu'elles ont été méchantes avec toi là maintenant, mais moi je t'aime, viens, hashtag Mireille avec nous.
Elle ne peut pas aller sur Rocha Today. Merci beaucoup Christine Gonzalez, on peut vous revoir sur notre page Facebook, hein, par Jupiter et sur franceinter.fr bien sûr, parce que vous le jouez, vous le jouez cette interview. Oui, oui. Allez, Françoise Altiel est en notre compagnie et on va aborder cet autre sujet avant d'écouter Thomas VDB. Dans les restaurants, le bouche à oreille qui faisait la réputation des bonnes tables a été remplacé par Instagram et décuplé dans des proportions si énormes qu'un établissement de Milan propose de vous offrir le repas si vous avez beaucoup beaucoup de followers. Alors en plus forcément on est hyper bien accueillis, hein, quand on a un grand pouvoir de publicité on est accueillis particulièrement.
Permettez.
Vous n'avez pas terminé votre dîner?
J'ai plus faim, c'était très bon.
Il faut finir, tout finir.
Mais ça va, laissez-moi passer.
Non.
Comment non?
Vous allez me suivre à la cuisine.
Oh, hein? Vous êtes allé me toucher.
Mangez.
Je ne mangerai pas. Mais si. Mangez.
Fufu dans l'aile ou la cuisse, le film de Claude Zidi. Alors j'imagine, François Saltiel, que ce sujet ne vous a pas échappé, tout ce qui est ces sujets sur Internet qui nous paraissent parfois quand même assez dingues, vous les traitez notamment dans 28 minutes. Donc les followers, c'est devenu presque une monnaie quand on est très très, on va dire, influent sur Instagram. Mm. On peut se faire payer le repas moyennant de faire une photo.
On peut se faire payer le repas, on peut se faire offrir des vêtements, on fait du placement de produits, etc. Effectivement, là, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Alors, c'est pas le meilleur des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, pour le coup, là, on défend pas des grandes causes, mais c'est ça aussi, des réseaux sociaux, et ça existe. Alors, effectivement, c'est assez fou, hein, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. C'est-à-dire, en fonction du millier de followers qu'on a, on a un plat qui correspond, je crois, c'est ça. Donc, on en a 100 000, on a le menu gratuit, mais 10 000, on a 15 sushi, 3000, on a 200, on n'en a qu'un maquis. Bon,
mais voilà. Il faut vraiment le poster.
C'est ça. Ah oui, c'est bien sûr. La contrepartie, c'est qu'il faut poster la photo.
Mais si on est honnête, nous les journalistes, on reçoit beaucoup les livres, on est invité au spectacle parce qu'on va en parler.
Ouais.
Ouais, c'est le pouvoir de prescription.
Est-ce que donc on n'est pas dans le même...
Non, parce qu'on a décidé d'en parler.
Ouais.
Ah non, on les reçoit parfois sans avoir décidé d'en parler.
Oui, mais on n'en parle pas si on n'a pas décidé.
Oui, ah, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec vous.
Ah oui, bien sûr.
Mais non, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en même temps, ça offre aussi une certaine liberté, parce que pour l'instant, c'était que les journalistes qui avaient ce pouvoir de prescription de prendre
la
parole.
Je veux dire, est-ce que c'est si mal, en tout cas, pour les blogueurs?
Là, c'est intéressant, chacun peut créer sa chaîne, son média, donc c'est une forme de liberté. On aime ou on n'aime pas.
Typiquement, François Saltiel, on vous a pas invité pour avoir votre livre gratos.
Non,
on vous a invité parce
qu'il coûte que 14,95€. C'est tous vos meilleurs marchands de.
Sinon, faites vos commandes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? On invite
Mireille,
les gens.
Mireille, mais elle ne peut pas venir. Ma grand-mère serait tellement
vous
contente d'avoir le coffret.
Ah ben, on invite Mireille Mathieu, vous allez le coffret pour Noël et puis on est content. Vous disiez, François Saltiel, c'est vrai que sur Instagram, c'est une autre... Il y a comme Twitter, c'est pas pareil qu'Instagram. Par exemple, sur Twitter, il y a beaucoup d'indignation, de hashtags qui changent le monde, etc. comme vous l'expliquez dans votre ouvrage. Et Instagram, il paraît avoir un côté un peu plus futile de je montre les vêtements que j'ai reçus, je suis en photo avec, etc.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, un côté plus bienveillant. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont chacun leur identité. Facebook, maintenant, quand vous voyez que votre grand-mère est sur Facebook quand vous êtes un jeune, ça devient un réseau social qui est plus très intéressant.
Ouais, pour draguer, c'est pas mal du coup si les grands-mères arrivent. Moi,
hashtag cougar, hashtag je lance toujours cet appel. Mais donc du coup Facebook, on peut dire que c'est un peu une sorte de carte d'identité, c'est-à-dire qu'il faut y être, on peut pas ne pas y être, mais on va pas forcément le nourrir, le cultiver, mais on ne peut pas ne pas y être. Twitter, c'est vraiment le média, vous le voyez tous les jours, il y a des polémiques, des buzz, du scandale, etc.
De la
réaction, c'est vraiment le média épidermique, voilà, du clash. Et Instagram, déjà, c'est la photo, donc c'est le poids des photos, sans toujours le poids des mots et le choc de l'image, sans forcément le poids des mots. Et là, du coup, sur Instagram, ça fait être un peu plus bienveillant, mais aussi beaucoup plus superficiel dans le lifestyle. On va mettre ce magnifique paysage, ce magnifique plat qu'on a consommé hier. Et d'ailleurs, on se rend compte que souvent, les Instagrammeurs font les mêmes photos dans les mêmes endroits. Et je vous invite à aller voir un compte Instagram qui s'appelle Insta Repeat et qui s'amuse à recenser comme ça toutes les mêmes photos prises par les touristes dans le monde entier. Vous allez voir, c'est une démonstration qui est assez fascinante.
Il y a 6 milliards et demi de tours Eiffel. Déjà. Et comment est-ce que ces réseaux ont chacun finalement leur identité? C'est l'usage qu'on en fait. Il y a un conditionnement aussi que sur Instagram, c'est plus bienveillant et qu'il y a plus de pubs, que sur Twitter, c'est un peu plus, ça peut être plus hargneux ou fédérer les gens pour des manifs, etc.
Bah, effectivement, c'est quand même un peu l'usage qu'on en fait. Parce que quand on réfléchit, Facebook, au tout départ, c'était quoi? C'était un truc pour retrouver ses copains d'un vent.
Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis, on mettait des photos de chats un peu marrants. Et puis, c'était un truc de divertissement. Puis, très vite, on a vu que l'outil était tellement puissant que des entreprises politiques, que des entreprises tout court s'en sont servies. Vous évoquiez tout à l'heure les fake news. C'est bien ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, Facebook peut être un instrument au service d'un État pour faire passer de l'information et de la propagande politique. Donc là, on a vraiment la démonstration d'un truc qui était une sorte de copain d'avant pas très dangereux, un véritable outil de propagande politique. Et l'affaire Cambridge Analytica en est l'illustration. Donc, c'est quand même ce qu'on en fait, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a le pire et donc parfois le meilleur.
Voilà, donc maintenant, si vous voulez, donc ça se passe à Milan, mais ça va s'étendre.
Ah, je pense que ça va s'étendre.
J'ai des followers, alors hop, envoie ici la blanquette de volaille. Quoi. C'est ça. Eh ben, dis donc, 17h48 sur France Inter en compagnie de François Saltiel et de Thomas Védébé.
Oh là là, on est parti.
Je vous plains.
Ah, c'est la journée, dis donc.
Je regardais Cache Investigation cette semaine et je peux vous dire que je vous plains. Voilà, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors cette semaine, pour moi, une chronique un peu particulière puisque je vais parler de santé publique. Hein, comme vous savez, je suis un peu le Michel Simès de cette émission. Hein, bon, il y aura quand même moins de blagues de cul que si c'était Michel Simès qui avait écrit cette chronique. Quand même, ça se pourrait pas d'en faire autant. Mais vous inquiétez pas, du cul va y en avoir quand même un peu. Hein, en tout cas, va y avoir des nénés. Hein, va même y avoir de la monnette. Puisqu'on va parler d'implants mammaires et vaginaux. Hein. Alors moi, vous savez... donc comme je disais, cette semaine, j'ai regardé l'émission Cache Investigation et il y avait toute une enquête sur les implants. Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, je tiens à dire, je suis pas contre le progrès dans la médecine. Hein, je trouve qu'il y a les implants qui sauvent des vies, évidemment, c'est pas la question. Mais là, vraiment, le reportage faisait très très peur parce qu'il y a donc 200 journalistes qui ont enquêté dans le milieu des implants et je peux vous dire, c'est pas jojo. S'il y a une chose qui ressort, c'est qu'au niveau des contrôles, déjà, ils sont pas vraiment, on va dire, hyper à cheval sur la question. Hein, grosso modo, on va dire n'importe qui peut mettre sur le marché un implant. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'équipe de l'émission Cache Investigation, il prétend inventer un nouvel implant, et pour le commercialiser, ils appellent l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui leur disent juste « il y a deux formulaires à remplir pour commercialiser l'implant ». Quoi. C'est-à-dire que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui est probablement une des agences nationales qui porte le plus mal son nom, je pense quand même. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des passionnés d'implants, ou tout simplement de bricolage, peut-être qu'ils nous écoutent, hein, qui fabriquent des petits implants dans leur garage avec des tournevis, des marteaux, et ben c'est une belle aubaine. Hein, en un coup de fil, voilà, vous remplissez le formulaire et c'est parti. Alors ils sont sympas, c'est vrai, au ministère de la Santé de nous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais si après ils laissent l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament nous mettre n'importe quoi sous notre peau, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très bien parti. Enfin je dis nous d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un problème qui concerne surtout les femmes, donc c'est bien pour nous, parce que j'ai remarqué quand il y a des problèmes dans la société, ça concerne souvent les femmes. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, les hommes sont moins touchés, bizarrement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les hommes meurent plus tôt, hein, pour compenser d'avoir passé leur vie à profiter finalement du patriarcat. Et je me dis, voilà. Et donc là, dans Cache Investigation, il y avait deux pauvres femmes qui témoignaient. Alors, on avait dû leur poser des implants vaginaux de la marque Prolift suite à des problèmes de santé. Hein, évidemment, elles s'étaient pas mises ces implants vaginaux juste pour le plaisir. Hein, voilà, on se doute bien. Et depuis, elles soufflent martyr. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, le truc depuis se baladait en elles. Enfin, je dis se baladait, non, parce qu'en fait, le truc se balade. Parce que le problème quand ils ont conceptualisé les prothèses, c'est qu'ils n'ont pas pensé à faire en sorte qu'on puisse les enlever. Ça, c'est malin, ils se sont dit ça, parce que c'est la société Ethicon qui commercialise le truc. Alors, si tu regardes bien dans Ethicon, il y a éthique, mais quand même surtout con, j'ai l'impression, c'est vrai. Et donc, voilà, impossible d'opérer, la pauvre femme est condamnée à souffrir éternellement. Mais bon, tout n'est pas perdu dans tout ça, puisqu'elle se gave d'antidouleurs toute la journée, et du coup, elle fait fonctionner l'industrie pharmaceutique. Et ça, c'est bien, hein, ça redonne toujours foi en l'humanité de voir un lobby filer un petit coup de main à un autre lobby. Ça, c'est bien. Alors, en regardant leur portage, je me disais que les femmes ne sont pas toujours les mieux placées, quand même, hein, entre les inégalités salariales, les violences conjugales, le harcèlement et le reste. Mais même quand on essaie de les soigner, finalement, on leur pourrit la vie. C'est dingue, c'est bien. Hein. Mais je crois que ce qui m'a fait le plus flipper dans l'émission, quand même, c'est l'interview d'Agnès Buzyn, qui dit dès sa deuxième phrase qu'elle découvrait le truc. Alors, je rappelle que Agnès Buzyn, c'est notre ministre de la Santé, et elle découvrait le truc, et je vous jure, elle était là en mode, ah, c'est vrai? Non mais il y a des industriels qui vendent des produits douteux pour faire du profit. Non mais attends, non, mais c'est quoi l'embrouille là? Voilà. C'est-à-dire qu'elle se demandait si elle travaille vraiment avec Emmanuel Macron. Et bon, après c'est vrai que le ministère de la Santé prend quand même des mesures fortes pour nous protéger, parce que bientôt on va pouvoir se faire rembourser nos préservatifs. Oui. J'ai vu ça. Alors uniquement les préservatifs masculins, hein, les meufs on verra après quand même. Et ce sera remboursé sous présentation d'une ordonnance. C'est-à-dire que bientôt il va y avoir des secrétaires médicales qui vont répondre au téléphone à des gars qui veulent un rendez-vous chez le médecin pour avoir les préservatifs. Les mecs vont être là, oui, alors, j'ai très envie de prendre un rendez-vous là très bientôt pour aller chez le médecin. Là, j'avais bien prévenu qu'il y aurait un peu de cul quand même dans cette chronique. Donc on va devoir débourser 25 euros de consultation pour le remboursement d'un truc qui vaut 3 euros. Donc, merci Agnès Buzyn. Comme quoi en France, on n'a pas des bons implants, mais on a quand même des bons plans.
Merci Thomas VDB. Et Thomas, vous passez bientôt par la Normandie car vous jouez demain à Granville.
Tout à fait.
Le 6 décembre, ce sera la Bretagne. Vous jouez à Fouesnant.
Absolument.
Et ensuite, ce sera la Cigale. À Paris le...
Le 8 décembre, évidemment.
Oh, c'est cette fois-là, vous jouez deux fois ?
Je joue deux fois le 8 décembre, ouais, absolument. 8 décembre.
Plein de Thomas VDB. Allez, vous êtes sur France Inter, par Jupiter, François Saltiel est avec nous et on va aborder ce dernier sujet, car nous sommes vendredi, on peut parler de la fête. Pas que de la fête du samedi soir, la fête c'est aussi le carnaval ou les fêtes religieuses. D'un point de vue philosophique, car c'est la une de Philosophie Magazine, la fête a un rôle social, dont rendre supportable la relation dominant-dominé. Ça se voit notamment dans les carnavals où on brûle les figurines, etc. Et c'est pourquoi les fêtes d'entreprise sont forcément ratées, parce qu'il est difficile de faire abstraction des rapports hiérarchiques. Allez, c'est bientôt le week-end. Je vous donne un petit aperçu de ma fête de ce week-end.
Alors si vous le voulez bien, maintenant, nous allons danser. Alors soyez gentils, mesdames au salon.
Mesdames au salon. C'est marrant, il me rappelle ma mère.
Mademoiselle, je me présente, Général Cédille.
Et moi, Rocky la Braise.
Amusant. Me ferez-vous la grâce de m'accorder cette danse? La valse me donne des ailes.
Non, moi ça me donne le tournis.
Je vais m'amuser, c'est un truc de foufou. C'est un extrait des pissenlits par la racine. Alors, est-ce que François Saltiel, la fête, c'est quelque chose qui est présent sur les réseaux sociaux où justement c'est un moment de déconnexion? Ou alors pas du tout en fait, les gens ont envie aussi de partager la fête.
Sur les réseaux sociaux, le principe même des réseaux, c'est de partager tout le temps toute sa vie. Vous savez, il y a même un truc assez terrible pour les jeunes générations qu'on n'est plus malheureusement, qui ont l'impression que s'ils publient pas une photo, le moment n'a pas existé. Hein, si on publie pas, c'est que ça a pas eu lieu puisque je peux pas le dire aux autres. Et comme j'ai tellement donné l'habitude aux gens de raconter tout le temps ma vie, si je raconte rien, les gens vont penser que je fais rien. Or j'ai toujours l'impression de vouloir faire quelque chose. Donc la fête, généralement, oui, elle est présente sur les réseaux sociaux, mais de manière toujours un peu magnifiée, puisqu'on va faire une photo, on va mettre un peu de filtre. Vous savez les fêtes un peu pourries où il y a que 10 personnes dans un grand open space, il suffit de faire un plan un peu serré et dire folle ambiance, regarde, je m'éclate, alors qu'en fait il y a que ton chien qui est juste derrière et que tu es en train de mourir de solitude.
C'est pour aussi faire la promo de la
com' du modem. Ça.
Oui, c'est ça.
Et la fête à Lausanne, c'est comment la fête à Lausanne?
Ouais, alors c'est vraiment vachement bien.
C'est énorme. Ouais.
Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Hein.
Ah oui, oui.
On est beaucoup plus fous qu'on en a l'air. Hein, là, en Suisse romande.
Ah d'accord, pardon.
Mais moi, je me pose une question à propos justement des réseaux sociaux. Si je peux juste poser cette question sur, par exemple, en Suisse, le Twitter, il n'y a que les journalistes et les politiciens. Quoi. Est-ce que aussi notre culture à nous a un lien avec la consommation des réseaux sociaux?
C'est-à-dire qu'en Suisse, le grand public ne va pas forcément aller sur Twitter, mais j'ai vu qu'en Suisse justement le grand public allait sur Instagram, parce qu'il y a un nouveau service qui existe en Suisse, j'en ai parlé hier dans 20 minutes, où c'est un majordome qui publie pour vous justement sur Instagram, c'est-à-dire que vous avez envie de vivre justement un moment de déconnexion, mais donner l'impression que vous faites des choses, vous confiez votre compte Instagram à quelqu'un qui va publier pour vous, ça c'est en Suisse.
C'est malin. Allez, on va le poster sur les réseaux sociaux après. Frédéric Fromet, il est derrière vous. Changement de question, Frédéric Fromet. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la planète?
Je m'en fous complètement. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer. Qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, fuck la pollution, c'est que du toc. C'est un complot des Shintok. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer. Qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, admettons que le réchauffement nous gagne. Il fera enfin beau en Bretagne. En plein jour, faut que ça clignote. Je laisse allumer les loupiottes. Si j'ai de belles baskets, je prends ma bagnole tout seul pour faire 500 mètres. Si les balayeurs balayent, C'est à moi qu'ils doivent leur paye. Si les châteaux d'eau turbinent, c'est qu'il me faut 10 litres pour brosser mes canines. À 20 degrés comme je me les pèle, les radiateurs font du zèle. Je pourrais bien porter un pull crade, mais je voudrais pas qu'on me croie échappé d'une osade. Au supermarché, quel régal, faut voir un peu comme on emballe. Si le plastique n'est pas bon, alors pourquoi est-il mangé par les poissons? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tombe pas rond. Et puis après, la mort des insectes, pas de panique, qui peut blairer les moustiques? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tombe pas rond. Et puis après, si la météo fait des dégâts, ce sera la faute d'Evelyne Delia. La bouffe de saison locale, j'aime autant crever la dalle. Pour adhérer à une AMAP, faut sacrément aimer les choux de Bruxelles en grappe. Trier ses ordures, c'est chiant, ça nécessite de l'entraînement. Poubelle verte, jaune ou marron, faut avoir au moins fait question pour un champion. Au volant de mon gros 4x4, je me fous du glyphosate. Ok pour planter un boulot, si le but est d'y pendre un écolo. Quitte à choper la grosse dette, j'achète. J'ai tout en double, même en trip. Des trucs dont je me sers pas, consommer c'est mon trip. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, on nous enfume avec l'effet de serre, sinon pourquoi encore l'hiver? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, admettons que ça chauffe un peu fort, c'est chouette pour ceux qui dorment dehors. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, puisqu'on va tous finir au fond d'un trou, pourquoi s'infliger du tofu? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, toute une vie en bio, et puis voilà, Tchernobyl ou Fukushima.
Merci Frédéric Fromet.
Merci.
C'est une très très belle chanson.
Merci.
Bravo. Merci beaucoup Frédéric. Eh bien, hashtag par Jupiter, c'est terminé. Pour, même pour cette semaine, c'est le week-end. Merci beaucoup François Saltiel.
Et merci à vous.
Merci d'être venu, c'était un plaisir. Hashtag 28 minutes, hashtag Arte, tous les jours à 20h05. Et puis votre ouvrage qui raconte toutes ces histoires derrière les hashtags qui essayent de changer le monde et qui parfois y parviennent. C'est le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies, et c'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup François.
Hashtag merci à vous.
Mais hashtag de rien.
J'espère que vous avez utilisé le hashtag par Jupiter.
Oh ouais, je vais faire que ça, ça sera la prochaine histoire d'ailleurs. Comment Jupiter change le monde.
Merci beaucoup Rukyata Wedraogo, Thomas VDB, Christine Gonzalez, Alex Vizorek, merci Frédéric Fromet, et merci beaucoup à toute l'équipe, à Paul Plumet, notre stagiaire assisté de Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, il y a aussi Ramzi Assadi, alias Ramzi avec un I. Merci beaucoup aussi à Élise Christophe à la technique, Serge Viguier aussi, et Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice. On va laisser le mot de la fin à Mireille Mathieu.
J'ai